Alors, les choses tombent que nous allons terminer 1 Timothée ce soir, vers la fin de l'année. Nous sommes dans le chapitre 6 et nous commencerons donc au verset 11. Ce sont les dernières exhortations de Paul à Timothée dans cette première lettre. Timothée, qui est un jeune pasteur à Éphèse, Paul qui est toujours emprisonné, toujours en difficulté, qui veut l'encourager parce que Timothée a des difficultés dans son ministère. Et nous prenons l'angle des meilleures choses. Le Seigneur veut nous montrer ce qu'il y a de meilleur dans la vie chrétienne. Et on va commencer donc 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le bon dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Dans ce dernier passage, eh bien, j'ai trouvé que le Seigneur voulait nous pointer vers les choses éternelles. Notre Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, a dit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous un trésor dans le ciel. Et ici, encore une fois, le Seigneur pointe vers les choses éternelles, et nous allons les voir les unes après les autres dans ce passage, à partir du verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Alors, fuis quelles choses? Il faut avoir le contexte précédent. Qu'est-ce que nous avions vu précédemment? L'amour de l'argent, principalement, mais aussi les discussions vaines, verset 5 du chapitre 6. Et il dit: Toi, homme de Dieu, tu ne dois pas t'occuper de discussions vaines et tu ne dois pas rechercher à t'enrichir. Ce n'est pas ton but dans la vie. Il y a des gens qui ont pour but de gagner de l'argent, de faire des affaires, d'amasser, etc. Et ce n'est pas le rôle du serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne doit pas mélanger le ministère avec l'argent. Et le serviteur de Dieu a besoin d'argent pour vivre. Et il compte sur le Seigneur et sur l'église où il travaille pour lui apporter cette aide le plus possible. Par contre, si un serviteur de Dieu se met à avoir un deuxième métier pour gagner de l'argent, et si c'est juste alimentaire parce qu'il ne reçoit pas assez de soutien, c'est tout à fait compréhensible. Il y a des églises qui ne donnent pas assez à leurs pasteurs, malheureusement, ou parce qu'elles ne peuvent pas, ou parce qu'il n'y a pas la volonté non plus, hein. Mais ça arrive malheureusement et souvent que des pasteurs travaillent en dehors. Mais c'est très compliqué pour un serviteur de Dieu parce que son esprit doit être à deux endroits. C'est extrêmement dur de suivre les âmes, de prier continuellement quand vous avez le souci de votre travail séculier, parce que Ben, il faut, c'est demandeur, le patron vous demande, l'entreprise où vous êtes, où le travail vous demande, et en même temps l'Église a des demandes, le Seigneur a des demandes, et il y a un moment où on n'arrive plus à tout gérer en même temps, c'est très difficile, et malheureusement ce qui arrive c'est que le serviteur de Dieu soit quitte le ministère, il y a énormément de pasteurs qui quittent le ministère, parce qu'ils n'ont pas assez d'encouragement de leur Église, des Églises, ou qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts pour leur famille, ils ont des enfants, ils n'ont plus assez d'argent, ils disent je dois travailler à plein temps et je n'ai plus le temps pour servir Dieu. Ça, c'est quelque chose qui me brise le cœur de voir des gens qui veulent servir mais ils n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'on ne leur a pas donné cela. Et donc c'est vraiment la responsabilité aussi de l'Église, des Églises, de soutenir les serviteurs de Dieu. Fuis ces choses. Il y a des moments où il faut combattre, il va le dire d'ailleurs au verset 12, combat le bon combat. Et il y a des moments où il faut fuir. Le moment où il faut fuir, c'est face à la tentation. Quand on est devant la tentation, il ne faut pas jouer les gros bras et dire, t'inquiète pas, moi, je suis fort, je suis un chrétien expérimenté, maintenant j'ai des années de vie chrétienne, cette tentation, ça ne me fait plus rien. Quand on a cette attitude d'orgueil, en fait, on est en danger. Que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe ou de tomber. Donc, ce n'est pas parce que je suis debout maintenant que je ne peux pas tomber. Et ça, nous le savons même physiquement, hein. On peut trébucher, on peut se casser la figure comme à rien. Et donc, le chrétien, à certains moments, doit fuir ce qui le tente. Il ne doit pas rester au même endroit et il doit dire non, je ne veux rien savoir. C'est étonnant comme le Seigneur, lorsqu'il a été tenté, après les 40 jours de jeûne, il n'a pas cherché à combattre plus longtemps. Satan lui tendait une perche et Jésus dit non, c'est pas vrai, le Seigneur a dit ça. Satan lui citait un verset, Jésus dit la Bible dit aussi. Et il a simplement répondu, répondu, et c'est Satan qui s'est enfui, parce que c'était notre Seigneur, le Fils de Dieu. Mais nous, nous ne sommes pas comme notre Seigneur, nous n'avons pas sa résistance, et nous devons répondre avec la parole de Dieu quand il y a une tentation, mais nous devons aussi être prêts à fuir. Ce n'est pas de la lâcheté de fuir devant le péché. Repensez à Joseph dans le livre de la Genèse, lorsque la femme de Potiphar, son maître, a voulu coucher avec lui, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Et elle a attrapé hein, son manteau et elle en a fait une pièce à conviction pour le condamner. Mais il s'est enfui. Joseph n'a pas eu peur de cette femme en tant que telle. Mais il s'est dit, si elle continue à me harceler, moi, je vais un jour peut-être tomber. Parce que je suis un homme. Et il faut savoir fuir les choses. Et il dit, fuis et recherche. Alors, c'est pas fuir, c'est une chose, mais il faut rechercher le bien. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps en train de fuir le mal, mais ils ne cherchent pas le bien en même temps. Si on fait que fuir, on ne va pas avancer non plus. Si on est tout le temps en train de dire, oh, ça c'est un péché, ça c'est un péché, oh, ça je ne dois pas le faire. Bon, ben alors on devient ermite, on va dans une grotte, voilà. Et on s'enferme, et même dans une grotte, vous allez avoir des tentations qui vont venir de l'intérieur. Dans un monastère, il y a des tentations. Non, le Seigneur veut qu'on recherche le bien. Et ici, il fait une liste, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Les meilleures choses, c'est ça. C'est pas de l'argent, c'est pas les biens matériels, c'est pas un bonheur factice du monde. Les meilleures choses, c'est cette liste-là. La justice. Qu'est-ce que c'est la justice? C'est d'abord le fait d'être pardonné, d'être déclaré juste par Dieu. Combien c'est merveilleux de dire je suis en paix, Dieu a pardonné mes péchés par Jésus-Christ, mon Sauveur. Mais la justice, c'est aussi marcher droit, marcher dans la justice, avoir une vie pure. Et ça demande un effort, une recherche, un travail quelque part. D'avoir une vie pure, il faut se consacrer au Seigneur, il faut être vigilant, il faut chercher le bien. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? Quelles sont les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi? C'est ça, marcher dans la justice. Recherche la piété, on en a déjà parlé, hein? la piété qui est utile à tout, c'est cette communion avec Dieu, cette relation, cette adoration, cette marche avec le Seigneur permanente. Combien c'est précieux dans la vie. Ça vaut plus que l'or. La foi, alors là, le mot, c'est plutôt la fidélité. Ce n'est pas l'idée de croire, c'est l'idée d'être fidèle. Et nous devons vraiment tendre vers cette fidélité au Seigneur, à la parole. Nous sommes dans un monde qui s'écroule hein, de tous les côtés, y compris les églises, y compris la foi. La Bible est attaquée de façon terrible, non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur, par des faux théologiens, des faux docteurs qui sont en train de la faire exploser. Il faut là s'être engagé à la fidélité. C'est un peu comme le mariage. Qu'est-ce qu'on promet à son conjoint ? On dit « je te promets d'être fidèle ». Eh bien, quand on s'engage avec le Seigneur, notamment au moment du baptême, c'est un des éléments qu'on dit. Hein. Seigneur, je veux t'être fidèle. On sait que humainement, nous n'avons pas la force d'être fidèle 100% jusqu'à la fin de nos jours. Nous aurons besoin tous les jours de la grâce de Dieu. Mais si on ne vise pas cette fidélité, si par exemple vous vous mariez en disant « je veux t'aimer jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus et il y en a une autre qui me plaira ». Est-ce qu'on appelle ça un mariage ? C'est du n'importe quoi. C'est se moquer de son conjoint et du mariage. C'est la même chose si avec le Seigneur, je dis « Seigneur, je veux bien te suivre, je veux croire en toi, je veux que tu me sauves surtout. Mais moi, de mon côté, il ne faut pas trop s'attendre. Hein. Seigneur, n'attends pas trop de moi. Moi, tu sais, quand ça ira bien, quand tu me béniras, je serai avec toi, mais quand tu me béniras moins, alors là, je ne sais pas. » Donc ça, c'est quoi ça ? Ce n'est pas la vie chrétienne, ce n'est pas la fidélité. La fidélité, c'est qu'on s'engage. Seigneur, je veux te suivre, même dans les mauvais jours. Même dans les mauvais jours. Je me suis toujours touché par Jérémie, hein, lorsqu'il prie et il dit un moment au Seigneur, mais j'ai l'impression que tu as fermé l'accès à ma prière. Je crois que c'est la chose la pire qui puisse arriver à un chrétien en difficulté. C'est qu'il est en difficulté, il s'adresse au seul Sauveur, au seul Seigneur, et sa prière est fermée. Est-ce que Jérémie a laissé tomber le Seigneur ? Non. Il dit, il m'est bon d'être humilié. Je me tiendrai hein, comme un serviteur dans la poussière jusqu'à ce que ça passe. Ça, c'est quelqu'un qui a décidé d'être fidèle. Job, est-ce qu'il a laissé tomber le Seigneur ? Non. Il s'est plaint, il a gémi, il a rouspété, il a dit des choses un peu mauvaises par-ci, par-là. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu le permettait tout ça, mais il n'a jamais laissé tomber le Seigneur. Même quand sa femme lui a dit « maudit Dieu et meurt », il a refusé d'abandonner le Seigneur. Et c'était presque aux yeux des hommes, en tout cas aux yeux de sa femme, c'était complètement absurde. Écoute, le Dieu que tu sers, t'as tout pris. Tu n'as plus, il a pris tes enfants, ce que tu as de plus cher. Il a pris tes biens, tes troupeaux, tes maisons. Et toi, tu es encore en train de prier Dieu, mais c'est absurde. Pourtant, Job est resté fidèle. Ça, c'est la fidélité. Il y a quelque chose dans un engagement du cœur hein, pour être fidèle. C'est pareil d'ailleurs dans le couple. L'amour, bien sûr, la charité. Donc, recherche la justice, la piété, la fidélité, la charité. Le don de soi aux autres. C'est quelque chose qui demande aussi un engagement. La patience, d'être patient, de supporter les gens et les situations. Parce que dans la patience, il y a les gens et les situations. Il y a des gens qui vous minent la patience, hein, qui vous donnent envie de vous révolter, qui vous frustrent, etc., et qui exigent une certaine patience. Le serviteur de Dieu, mais on peut l'appliquer à tout chrétien, doit être particulièrement un homme, une femme de patience. Quelqu'un qui supporte, qui soutient, qui attend, qui ne se précipite pas, qui attend de Dieu aussi la réponse, qui est patient dans les réponses de Dieu. La patience, c'est quelque chose de, c'est une vertu hein, extraordinaire et très difficile. Il y a peu d'hommes patients. Moïse est appelé patient et pourtant il s'est impatienté à un certain moment face à son peuple. Mais il fallait voir ce qu'il devait supporter depuis des années. dans ce désert. Il avait tout le temps quelqu'un qui venait se plaindre et lui dire, mais Moïse, mais pourquoi ci et pourquoi ça? Ensuite, c'était la révolte. Mais pourquoi il n'y a que toi qui nous dirige? Et pourquoi il ne faudrait pas faire ça? Et pourquoi on n'a pas de la viande? Et pourquoi on a quitté l'Égypte? Et pourquoi Dieu ne nous laisse dans ce désert? Au bout d'un moment, vous dites, non, écoute, ça suffit maintenant. Mais si on est serviteur de Dieu, on doit demander à Dieu la patience avec toutes ces questions. Même si la question nous paraît stupide, même si la question ne nous paraît pas correcte, il faut répondre, il faut avoir la patience. C'est une vertu qu'on doit rechercher. C'est la vertu de Jésus-Christ. Combien le Seigneur a été patient. Et puis la douceur, ça va très bien avec la patience. D'être doux, de ne pas être quelqu'un de violent, d'emporté, de colérique, mais d'être quelqu'un qui est doux dans son attitude, qui n'a pas de violence verbale ou de violence physique. Un chrétien doit être pacifique et justement être dénué de cette violence. Là encore, il y a un énorme travail à faire, n'est-ce pas, dans notre vie. Toutes ces vertus-là qu'on doit rechercher, comme je l'ai dit, demandent un engagement. On ne peut pas créer la patience en soi-même, on ne peut pas créer l'amour, on ne peut pas créer la fidélité. Par contre, on doit dire, Seigneur, je veux être comme ça. Seigneur, je veux être juste, je veux être pieux, je veux être fidèle, je veux être aimant, je veux être patient, je veux être doux. Est-ce que vous le voulez? Ou est-ce que c'est un vœu pieux, comme on dit, hein? Si je le veux, il doit y avoir un engagement. C'est-à-dire, quand je vais être confronté à une tentation, je vais dire non, je veux être juste. Alors je dis non à la tentation. Quand je vais être confronté à des activités qui m'éloignent de Dieu, qui m'éloignent de la piété, je vais dire non, je me suis engagé, je veux être pieux. Quand je vais être confronté à une tentation d'être infidèle au Seigneur, à une idole, à quelque chose qui remplace le Seigneur, je vais dire non, je me suis engagé à être fidèle. Quand je vais être tenté d'être égoïste, d'être centré sur moi, de laisser les autres, de dire « Oh, je ne m'occupe pas des autres, tant pis, ils se débrouillent », je vais dire non, je me suis engagé à avoir la charité. Quand je vais être irrité par quelqu'un ou quelque chose, une situation, je vais dire non, je veux être patient. Dans la vie chrétienne, il y a une part de l'homme quand même. Tout est par grâce, mais il y a la part de l'engagement de cœur. Est-ce que je veux ces choses? Parce que ça ne va pas me venir tout seul. Le chrétien qui ne veut pas marcher avec Dieu, qui est rebelle au Saint-Esprit, il ne va pas progresser. Il peut avoir 30 ans de vie chrétienne, il ne va pas progresser. Même il va reculer. Et on doit rechercher ces choses. Combat, le bon combat, c'est le verset 12. Et là, c'est un mot, le mot qui a donné en français le mot agoniser. C'est ça qui est intéressant. C'est l'idée de combattre, de se battre. C'était utilisé pour les soldats et pour les sportifs, pour les boxeurs. Il y avait dans les Jeux olympiques grecs la boxe ou la lutte surtout. Et c'était ce mot qu'on utilisait pour lutter. Pourquoi ça donnait le mot agoniser en français, d'après vous? Voilà, il fallait lutter jusqu'au bout. Alors ça pouvait être la mort quand on était soldat, ou la défaite totale, ou la mort pour les gladiateurs aussi. Et ça a donné donc le mot agoniser. Et ici, c'est ce qu'il dit, il faut que tu combattes jusqu'à la mort, le bon combat de la foi. Il y a des mauvais combats. Il y a des mauvais combats qui ne valent pas la peine de se battre pour... Est-ce qu'on va se battre pour la liberté de telle personne ou... Nous, notre combat, il est spirituel. Il est pour les âmes perdues. Il y a des églises qui font tellement d'œuvres sociales qu'elles ne combattent plus le combat spirituel. Elles sont dans le social. Et le social, c'est quelque chose qui vous absorbe. S'occuper des gens en difficulté matérielle, ça vous absorbe complètement, très vite. Parce qu'il y a énormément de besoins matériels. Et si les gens savent que vous allez pourvoir leurs besoins, ils vont venir chez vous. Mais vous pouvez finalement vous épuiser dans quelque chose qui est juste social. Alors que le but des chrétiens, c'est d'apporter l'évangile, c'est de penser aux choses éternelles. Si j'aide complètement quelqu'un à s'en sortir matériellement, mais que je ne lui apporte pas l'évangile, franchement, je suis passé à côté. L'armée du salut a gardé l'équilibre pendant un certain temps, en apportant le salut et le savon en même temps, comme il disait, la soupe, le salut et le savon. Parce qu'il disait, à quoi ça sert d'annoncer l'évangile à un gars dans la rue qui a froid et qui a faim? Il n'a plus d'oreilles pour vous entendre. Et donc, ils se sont dit, on va leur apporter à manger, des vêtements, un lit, du savon pour se laver avec l'évangile. Et c'était vraiment magnifique parce que c'était montrer l'amour de Dieu physiquement. Malheureusement, comme l'armée du salut n'est pas une église, ce n'est qu'une organisation hein, militaire d'ailleurs, hein, ça s'appelle l'armée du salut. Qu'est-ce qui s'est passé en France aujourd'hui? C'est que l'armée du salut est totalement séculière dans sa branche principale. C'est-à-dire, l'armée du salut a des contrats avec l'État. Les membres de l'armée du salut ne sont plus obligés d'être chrétiens. Ils ne peuvent plus exiger de confession de foi. Ils doivent engager n'importe qui. Quand ils engagent quelqu'un, c'est n'importe qui se présente. Ils ne peuvent pas faire de discrimination si c'est un musulman, un bouddhiste ou pas. Et ils ont des subsides de l'État qui leur permettent d'accueillir les gens. Et il y a juste une toute petite branche qui garde l'évangile, mais qui est séparée aux yeux de l'État français. Je suis en contact avec un ancien de l'armée du salut, et chaque fois qu'il m'appelle au téléphone, il pleure. Il dit, le responsable aujourd'hui, actuel à Paris, il ne croit pas vraiment à la résurrection de Jésus-Christ. Et moi, quand je viens en disant, mais il faut prêcher l'évangile, on m'envoie paître, on me refuse, il voit que ça a été perdu, c'est tombé. Voilà, on doit combattre le bon combat. Saisis la vie éternelle. Et j'aime bien ce verset, saisis la vie éternelle. Et puis il dit un peu plus bas, saisis la vie véritable. On peut passer sa vie dans des choses vaines et futiles. Et puis on peut, par contre, saisir la vie éternelle. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question. On commence sur la terre, oui. Voilà, tout à fait. La vie éternelle, c'est cette vie que nous passons avec Dieu depuis que nous sommes nés de nouveau. C'est la vie divine, en fait, en nous. Puisqu'il dit que nous étions morts avant et Dieu nous a donné la vie. C'est quelle vie nous a donné? Il nous a donné sa vie, la vie éternelle, qui est impérissable. Mais cette vie, on ne va pas seulement la voir après la mort, on l'a maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait de la vie impérissable de Dieu en nous? Qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit qui nous a été donné? Est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on dise, ah, moi j'ai le Saint-Esprit, super. On a le Saint-Esprit pour qu'il se passe quelque chose, qu'on vive, qu'on saisisse cette vie. Et donc, est-ce qu'on a la vie véritable ou une vie vaine? Est-ce qu'on amasse pour la terre ou est-ce qu'on amasse pour le ciel? Est-ce que notre temps, notre investissement, notre cœur est dans les choses spirituelles, éternelles? Alors on dit, oui, mais ça c'est pour les pasteurs, les missionnaires. Eux, ils ont tout leur temps, ils peuvent prier, évangéliser. Et c'est vrai que les pasteurs, les missionnaires doivent utiliser leur temps pour ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas aussi avoir ses priorités? C'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est premier dans ma vie? Est-ce que c'est ma vie terrestre? Construire ma petite vie terrestre, ma famille, ma maison, mon travail, mes vacances? Est-ce que toute ma vie tourne autour de ça? Ou est-ce que ma vie vise l'éternité? Ça ne veut pas dire d'être quelqu'un qui est toujours dans les nuages, un peu, qui se cogne contre les murs. C'est pas ça. Comme a dit hein, ce chrétien, on doit avoir la tête au ciel et les pieds sur la terre. Mais on doit avoir la tête au ciel. C'est-à-dire, bon, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai une maison, mais est-ce que ma vie est tout entière dirigée vers la volonté de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça, avec ma famille? Comment je peux te servir? Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Probablement, Paul fait allusion au baptême de Timothée, lorsque Timothée a confessé le Seigneur, a dit, voilà, je veux suivre le Seigneur. Car le jour du baptême, c'est un très bon moment pour confesser sa foi et pas simplement dire « je crois en Jésus-Christ », mais dire « je m'engage envers lui ». C'est ce que Pierre nous dit dans son épître. Hein. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, par le baptême, je dis « je m'engage à ce que Dieu soit mon Dieu, à le suivre jusqu'à la fin de mes jours ». D'ailleurs, c'est dans notre Église, c'est ce que nous demandons aux chrétiens qui se font baptiser. Est-ce que tu es prêt à suivre Christ jusqu'à la fin de tes jours? Voilà. Même si on n'est jamais vraiment prêt, ou si humainement on n'a pas cette force, est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on veut s'engager dans cette direction? C'est ça le baptême. Je veux m'engager. C'est pour ça que le baptême est quand même très important et c'est obligatoire. Un chrétien doit être baptisé. Ce n'est pas nécessaire au salut du tout. On est sauvé par la foi, par la grâce, mais c'est obligatoire pour un chrétien de faire sa première étape par le baptême, parce que là, il dit où il en est. Parce qu'il y a des gens qui font une profession de foi, qui disent « oui, moi, je crois en Jésus, oui, je veux suivre Jésus comme vous, ah, j'aime bien votre église, j'aime, etc. » Mais au moment du baptême, ce n'est plus « j'aime Jésus, je suis content, je veux suivre votre église », c'est « est-ce que je veux suivre Christ ? Est-ce qu'il est premier dans ma vie ?» Et donc, Timothée avait fait cette confession et Paul lui rappelle, parce que Paul veut le ramener quelque part où il était entier, parce qu'apparemment, Timothée, il a perdu quelque chose sur la route, là. Il a perdu son courage, il a perdu son zèle, il a été découragé par diverses choses, peut-être qu'on l'a critiqué, il y a ces faux docteurs qui venaient tout le temps le harceler comme des guêpes, et il n'en pouvait plus, Timothée, c'est pour ça que Paul lui a écrit 2 lettres, c'est pas rien, hein, 2 lettres pour un pasteur. Et tous les pasteurs de tous les temps et du monde entier sont encouragés par les lettres à Timothée, parce qu'on a tous passé par là un moment de découragement, un moment où on n'en peut plus, on ne sait plus où donner de la tête. Et là, il lui dit, remonte à ta confession, remonte à ton baptême, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Qu'est-ce que tu as dit? À quoi tu t'es engagé? C'est un petit peu comme un militaire hein, qui s'engage dans l'armée, et puis au bout de quelques années, ou dans la police, un policier dans la police, il perd sa passion. Il fait le boulot, mais parce qu'on lui demande, rappelle-toi quand tu t'es engagé, qu'est-ce que tu cherchais? Ah mais c'est ça que je voulais. Alors c'est vrai que des fois l'armée peut être décevante, ou la police, n'en parlons pas, mais le ministère n'est jamais décevant. Verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Alors, c'est un verset un peu curieux. On se dit pourquoi il parle de la confession de Jésus-Christ devant Ponce Pilate. D'abord, vous pouvez faire le lien comme moi avec le verset précédent. Il dit à Timothée, toi, tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et Christ, lui, a fait une confession devant Ponce Pilate. Mais quelle confession a-t-il fait? Qu'est-ce que vous pouvez retenir de la confession de Jésus devant Ponce Pilate? Alors déjà, Jésus a dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». Il dit « Je suis venu pour ça, pour rendre témoignage à la vérité ». Et là, c'est une façon de rappeler à Timothée « Toi aussi, tu dois faire ça. Tu es là pour être véritable, pour rendre témoignage à la vérité ». Autre chose que Jésus a dit devant Ponce Pilate, qui a rapport avec notre thème, Mon royaume n'est pas de ce monde. » Parce que Pilate lui dit, hein, « Tu vas régner, tu es donc roi des Juifs. » Il dit, « Oui, je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Et là encore, cette confession du Seigneur Jésus-Christ devant Pilate est très importante. Nous ne travaillons pas pour un royaume terrestre. Notre but, ce n'est pas de faire des cathédrales hein, de 50 mètres de haut. Notre but, c'est de bâtir avec des pierres vivantes, des pierres vivantes. Et donc il lui rappelle, hein, voilà, ce que Christ lui a confessé. Et puis, garde le commandement, verset 14. Vis sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Garde le commandement. Quel est le commandement? Voilà. tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Voilà le commandement que nous avons à garder. Et la Bible dit, Jésus a dit, si vous gardez ce commandement, vous avez gardé toute la loi. Parce que si vous aimez Dieu et votre prochain, vous ne ferez jamais aucun mal. Garde le commandement, donc garde la ligne, garde, ne te laisse pas égarer par les faux docteurs, les histoires dans l'Église, garde. Reste centré sur le Seigneur, sur ce que tu as à faire. Ton devoir, c'est d'obéir au Seigneur, de garder le commandement du Seigneur. Et puis, jusqu'à ce qu'il revienne, et j'aime bien voilà, cette expression, jusqu'à son apparition. Il y a plusieurs mots dans le Nouveau Testament. Il y a le mot parousie, il y a le mot révélation, apocalypse. Hein. Là, c'est un autre mot, l'apparition de Christ. Il va apparaître en son temps. Ça nous ramène hein, à toujours cette fin du monde. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui en son temps fera revenir notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en son temps, là, dans le texte, ça veut dire au temps prévu. Ça ne veut pas dire quelque part, un de ces jours. Ça veut dire au temps prévu. Et donc, Dieu, dans sa pensée, a déjà prévu le temps de la fin. Il sait quand ça va arriver, il sait quand ce sera la seconde près, l'heure du retour de Christ. Et ce temps, rien ne pourra le retenir, l'arrêter. Il n'y a qu'une seule chose qui fait que ce temps n'est pas encore arrivé, c'est la patience de Dieu pour que tous aient une chance d'être sauvés. J'aime le nom du Seigneur là, le bienheureux. Dieu est bienheureux. On n'imagine pas Dieu bienheureux, hein? Ce n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit, mais Dieu est heureux parce qu'il vit dans la justice, dans la sainteté, dans la gloire, dans la grâce. Le seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et là, cette expression, roi des rois, seigneur des seigneurs, était utilisée par l'empereur romain. Et si Paul écrit ces mots pour désigner Dieu, c'est peut-être aussi pour dire à Timothée, ne crains pas le faux seigneur des seigneurs. L'empereur qui dit, moi je suis le seigneur des seigneurs, vous devez m'adorer. Ne le crains pas, parce qu'il y avait déjà des persécutions hein, terribles contre les chrétiens. Et puis, il dit, verset 16, « Qui seul possède l'immortalité. » Dieu seul est immortel, la mort ne peut rien contre lui. Il habite une lumière inaccessible, nul homme n'a vu ni ne peut voir. Notre Dieu ne peut même pas être vu par un télescope. Là où il est, on ne peut pas le voir. Et personne ne l'a jamais vu. Dieu le Fils unique est celui qui nous l'a fait connaître. Nous connaissons Dieu à travers Jésus-Christ, mais Dieu lui-même, personne ne l'a vu et ne peut le voir. Et puis, verset 17, il parle à nouveau aux riches, et là il pointe, il dit, vous les riches, chrétiens, hein, les chrétiens riches, pensez aux choses éternelles. Ne mettez pas votre espérance dans des richesses incertaines. Pourquoi les richesses sont incertaines ? Oh là là, on les perd si vite. Ça se perd si vite. C'est un panier percé. Et beaucoup de riches passent leur temps à essayer de conserver leurs biens. Hein? Essayer de boucher les trous, mais ça s'en va. Ça fuit en permanence. Et le but du chrétien, lui, c'est de mettre son espérance dans des vraies richesses. Quand on sera au ciel et qu'il y aura des âmes qui diront « Ah, c'est toi qui m'as parlé la première fois de l'Évangile. » C'est grâce à toi que je suis au ciel en partie. Qu'est-ce que vous voulez comme récompense plus grande que ça ? Vous dites, ah bon, mais je ne me rappelle même pas t'avoir jamais rencontré. Mais si, si, c'est toi. Alors que si vous amassez des millions de dollars ou d'euros, eh bien, ils vont rester sur la terre, on l'a vu la dernière fois. Et au ciel, vous allez arriver tout nu. Tandis que si vous amassez des âmes, ils vont être là. Et c'est ce que dit hein, la parabole dans Luc 16, cette parabole un peu curieuse, hein, que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre. Faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Alors, quand on lit ce verset, on se dit, de quoi parle-t-il ici ? Mais les richesses injustes, ce n'est pas qu'elles sont injustement gagnées, ce sont les richesses terrestres, en fait. Avec les richesses terrestres, faites-vous des amis, c'est-à-dire, donnez, soyez libéraux, ici, il dit, hein, usez de libéralité, de générosité. Au nom du Seigneur, bénissez les gens, donnez votre argent pour aider les gens. Pas juste comme ça, jeté par la fenêtre, hein, mais pour aider. Et ces personnes, lorsque vous arriverez au ciel, dans les tabernacles éternels, n'est-ce pas? Eh bien, ils vous diront merci. Ils vous diront merci. Et vous aurez une récompense éternelle. Alors que l'argent n'est jamais une récompense éternelle. L'argent brûle et disparaît lors du feu qui jugera toute œuvre et toute chose. Il dit, verset 19, « Amassez-vous ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. » Ça, il faut le dire aux banquiers. Si jamais vous parlez avec des banquiers, avec des traders, il faut leur dire, écoutez, moi, j'ai un trésor placé sur un fondement solide. Hein, si jamais on vous démarche par téléphone, vous voulez placer votre argent chez nous? Vous voulez une assurance vie ou je ne sais pas quoi? Écoutez, moi, j'ai placé mon trésor sur un fondement solide. Ah oui, lequel? C'est quelle compagnie? Ah, si je vous disais, vous seriez surpris, hein? Mais c'est sur le Seigneur, sur la vie véritable, sur Christ. Quand on vit par la foi, on ne manque jamais de rien. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, la vie par la foi fait peur. Parce qu'on dit, mais je ne sais pas ce que j'aurai demain. Peut-être. Et peut-être pas. Peut-être qu'au fond, je sais très bien ce que j'aurai demain. Demain, j'aurai le Seigneur parce qu'il a dit, je serai avec toi tous les jours. Et si Dieu est avec moi, est-ce que j'ai quelque chose à craindre? Ah, bien sûr, je ne vais pas vivre dans l'opulence et le luxe et me vautrer dans un jacuzzi en buvant, en mangeant du caviar tous les jours, non. Mais si c'est ça la vie, c'est pas drôle. La vraie vie, la vie véritable, c'est pas ça, c'est d'être avec Dieu. Cette vie par la foi, c'est une vie d'aventure où le Seigneur me fait rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés, me fait aller dans des endroits que j'aurais jamais vus, me fait faire des choses que j'aurais jamais imaginé faire. Ça, c'est la vie par la foi. C'est merveilleux, la vie véritable. Et elle est avec Christ. Et puis, cette conclusion un peu solennelle. Ô Timothée, garde le dépôt. Le dépôt. Il en parle aussi dans sa deuxième lettre, hein, le bon dépôt. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a reçu du Seigneur. Le Seigneur nous a laissé en dépôt quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé en dépôt qu'il faut bien garder? Sa parole, tout à fait, la Bible, nous devons la garder, et pas simplement le livre, mais ce qu'il y a dedans. Quoi d'autre? Le Saint-Esprit nous a été donné en art, et c'est quelque chose d'extraordinaire, que Dieu, le Saint-Esprit, vienne habiter en nous. C'est, voilà. Est-ce que je le garde? Est-ce que je veille? Est-ce que je lui obéis? Est-ce que je suis ses indications? Alors, la saine doctrine qui est liée à la Bible, hein, le bon dépôt, c'est l'enseignement qu'on a reçu de la parole de Dieu, l'évangile tel qu'il a été annoncé. Hein. Si on commence à modifier l'évangile, c'est la catastrophe. Hein. Terrible. Et donc, on doit garder tout ce que le Seigneur nous a confié, et pas simplement le garder comme dans la parabole des talents où il l'enterre, hein. Mais le garder, ça veut dire bien s'en occuper, bien le laisser fructifier dans notre vie. Évite les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Vous voyez que Timothée était tombé dans le piège des faux docteurs. Hein. Au lieu de prêcher la vérité, au lieu de s'attacher aux choses positives, il était en train tout le temps d'essayer de combattre ces faux docteurs qui le harcelaient. Et il en avait perdu son latin, comme on dit. Il avait besoin de se recentrer sur les choses éternelles, les choses qui comptent, les choses qui bâtissent. Comment bâtir l'Église? Comment glorifier le Seigneur? Regarde, rappelle-toi ton baptême, rappelle-toi toutes ces choses. Que la grâce soit avec vous, ça c'est pour nous tous. Et c'est merveilleux, la grâce est avec nous parce que Christ est en nous. Et Christ est gracieux. Nous ne méritons rien de ce que nous avons, franchement. Mais c'est par pure grâce que le Seigneur nous a pardonné, nous a sauvés, nous a donné son esprit, sa parole. À nous de la garder, d'être fidèles, d'être des bons dépositaires, des bons gérants de tout ce que Dieu nous a donné. Et merci de votre attention, de votre participation. On termine par la prière.